Chapitre 11, l'attaque de la tour carrée. J'avais bondi derrière lui, je l'avais pris à bras le corps, redoutant toute sa folie. Il y avait dans ses cris « Maman, maman, maman » une telle fureur de désespoir, un appel, ou plutôt une annonce de secours tellement au-dessus des forces humaines, que je pouvais craindre qu'il n'oubliât qu'il n'était qu'un homme, c'est-à-dire incapable de voler directement de cette fenêtre à cette tour, de traverser comme un oiseau ou comme une flèche cet espace noir qui le séparait du crime et qui le remplissait de son effrayante clameur. Tout à coup, il se retourna, me renversa, se précipita, dévala, dégringola, roula, se rua à travers couloirs, chambres, escaliers, cours, jusqu'à cette tour maudite qui venait de jeter dans la nuit le cri de mort de la galerie inexplicable. Et moi, je n'avais encore eu que le temps de rester à la fenêtre, cloué sur place par l'horreur de ce cri. J'y étais encore quand la porte de la tour carrée s'ouvrit et quand dans son cadre de lumière apparut la forme de la dame en noir. Elle était toute droite et bien vivante, malgré le cri de la mort, mais son pâle et spectracle visage reflétait une terreur indicible. Elle tendit les bras vers la nuit, et la nuit lui rejeta Rouletabille, et les bras de la dame en noir se refermèrent, et je n'entendis plus que des soupirs et des gémissements, et encore ces deux syllabes que la nuit répétait indéfiniment, « Maman, maman !» Je descendis à mon tour dans la cour, les tempes battantes, le cœur désordonné, les reins rompus. Ce que j'avais vu sur le seuil de la tour carrée ne me rassurait en aucune façon. C'est en vain que j'essayais de me raisonner. Et quoi, au moment même où nous croyions tout perdu, tout, au contraire, n'était-il point retrouvé? Le fils n'avait-il point retrouvé la mère? La mère n'avait-elle point enfin retrouvé l'enfant? Mais pourquoi ce cri de mort quand elle était si vivante? Pourquoi ce cri d'angoisse avant qu'elle apparût debout sur le seuil de la tour? Chose extraordinaire, il n'y avait personne dans la cour du téméraire quand je la traversais. Personne n'avait donc entendu le coup de feu? Personne n'avait donc entendu les cris? Mais où se trouvait M. Darzac? Où se trouvait le vieux Bob? Travaillaient-ils encore dans la batterie basse de la tour ronde? J'aurais pu le croire, car j'apercevais au niveau du sol de cette tour de la lumière. Et Mattoni lui non plus n'avait donc rien entendu. Mattoni qui veillait sous la poterne du jardinier. Eh bien, et Bernier, et la mère Bernier, je ne les voyais pas. Et la porte de la tour carrée était restée ouverte. Oh! Le doux murmure, « Maman, maman, maman !» Et je l'entendais, elle, qui ne disait que cela en pleurant, « Mon petit, mon petit, mon petit !» Il n'avait même pas eu la précaution de refermer complètement la porte du salon du vieux Bob. C'est là encore qu'elle avait entraîné, qu'elle avait emporté son enfant. Et ils y étaient seuls dans cette pièce, à s'étreindre, à se répéter « Maman, mon petit !» Et puis ils se dirent des choses entrecoupées, des phrases sans suite, des stupidités divines. « Alors, tu n'es pas mort ?»« Sans doute, n'est-ce pas ? » Eh bien, c'était suffisant pour les faire repartir à pleurer. Ah, ce qu'ils devaient s'embrasser, rattraper le temps perdu. Ce qu'il devait le respirer, lui, le parfum de la dame en noir. Je l'entendis qui disait encore, « Tu sais, maman, ce n'est pas moi qui avais volé. » Et l'on aurait pensé au son de sa voix qu'il avait encore 9 ans en disant ces choses, le pauvre Rouletabille. Non, mon petit, non, tu n'as pas volé, mon petit, mon petit. Oh, ce n'était pas ma faute si j'entendais, mais j'en avais l'âme toute chavirée. C'était une mère qui avait retrouvé son petit, quoi. Mais où était Bernier ? J'entrais à gauche dans la loge, car je voulais savoir pourquoi on avait crié, qui est-ce qui avait tiré ? La mère Bernier se tenait au fond de la loge qu'éclairait une petite veilleuse. Elle était un paquet noir sur un fauteuil. Elle devait être au lit quand le coup de feu avait éclaté, elle avait jeté sur elle à la hâte quelques vêtements. J'approchais la veilleuse de son visage. Oh, les traits étaient décomposés par la peur. Où est le père Bernier ? Demandai-je. Il est là, répondit-elle en tremblant. Là, où là ? Mais elle ne me répondit pas. Je fis quelques pas dans la loge et je trébuchais. Je me penchais pour savoir sur quoi je marchais. Je marchais sur des pommes de terre. Je baissais la veilleuse et j'examinais le parquet. Le parquet était couvert de pommes de terre. Il en avait roulé partout. La mère Bernier ne les avait donc pas ramassées depuis que Rouletabille avait vidé le sac. Je me relevais. Je retournais à la mère Bernier. « Ah, ça, fille, on l'a tiré, mais qu'est-ce qu'il y a eu ?»« Je sais pas, » répondit-elle. Et aussitôt, j'entendis qu'on refermait la porte de la tour, et le père Bernier apparut sur le seuil de la loge. « Ah, c'est vous, monsieur Sinclair !»« Bernier, qu'est-il arrivé ?»« Oh, rien de grave, monsieur Sinclair, rassurez-vous, rien de grave !» Et sa voix était trop forte, trop brave pour être aussi assurée qu'elle le voulait paraître. Un accident sans importance. Monsieur Darzac, en posant son revolver sur sa table de nuit, l'a fait partir. Madame a eu peur, naturellement, et elle a crié. Et comme la fenêtre de leur appartement était ouverte, elle a bien pensé que Monsieur Rouletabille et vous aviez entendu quelque chose, et elle est sortie tout de suite pour vous rassurer. Monsieur Darzac était donc rentré chez lui. Mais il est arrivé ici presque aussitôt que vous avez eu quitté la tour, monsieur Sinclair. Et le coup de feu est parti presque aussitôt qu'il est entré dans sa chambre. Vous pensez que moi aussi j'ai eu peur. Ah, je me suis précipité. Monsieur Darzac m'a ouvert lui-même, heureusement. Il n'y avait personne de blessé. Aussitôt mon départ de la tour, Madame Darzac était donc rentrée chez elle. Ben aussitôt, oui, elle a entendu M. Darzac qui arrivait à la tour et elle l'a suivi dans leur appartement. Ils y sont allés ensemble. Et M. Darzac, il est resté dans sa chambre. Attendez, le voilà. Je me retournai, je vis Robert. Malgré le peu de clarté de l'appartement, je vis qu'il était atrocement pâle. Il me faisait signe. Je m'approchais de lui et il me dit « Écoutez, Sinclair, Bernier a dû vous raconter l'accident. C'est pas la peine d'en parler à personne si l'on ne vous en parle pas. Les autres n'ont peut-être pas entendu ce coup de revolver. C'est inutile d'effrayer les gens, n'est-ce pas ? Dites donc, j'ai un service personnel à vous demander. Parlez, mon ami, fille, je vous suis tout acquis, vous le savez bien. Disposez de moi, si je puis vous être utile. Non, merci, mais il ne s'agit que de décider Rouletabille à aller au se coucher. Quand il sera parti, ma femme se calmera, elle aussi, elle ira se reposer. Tout le monde a besoin de se reposer. Du calme, Sinclair. Nous avons tous besoin de calme et de silence. Bien, mon ami, comptez sur moi. Je lui serrai la main avec une naturelle expansion, une force qui attestait mon dévouement. J'étais persuadé que tous ces gens-là nous cachaient quelque chose de très grave. Il entra dans sa chambre et je n'hésitais pas à aller retrouver Rouletabille dans le salon du vieux Bob. Mais, sur le seuil de l'appartement du vieux Bob, je me heurtais à la dame en noir et à son fils qui en sortait. Ils étaient tous deux si silencieux et avaient une attitude si incompréhensible pour moi, qui avais entendu les transports de tout à l'heure et qui m'attendait à trouver le fils dans les bras de sa mère, que je restais en face d'eux sans dire un mot, sans faire un geste. L'empressement que mettait Madame Darzac à quitter Rouletabille, en une circonstance aussi exceptionnelle, m'intrigua à un point que je ne saurais dire, et la soumission avec laquelle Rouletabille acceptait son congé m'anéantissait. Mathilde se pencha sur le front de mon ami, l'embrassa et lui dit « Au revoir, mon enfant, mais d'une voix si blanche, si triste, et en même temps si solennelle, que je crus entendre l'adieu déjà lointain d'une mourante. » Rouletabille, sans répondre à sa mère, m'entraîna hors de la tour. Il tremblait comme une feuille. Ce fut la dame en noir elle-même qui ferma la porte de la tour carrée. J'étais sûr qu'il se passait dans la tour quelque chose d'inouï. L'histoire de l'accident ne me satisfaisait en rien. Et il n'est point douteux que Rouletabille n'eût pensé, comme moi, si sa raison et son cœur n'eussent encore été tout étourdis de ce qui venait de se passer entre la dame en noir et lui. Et puis, qui me disait que Rouletabille ne pensait pas comme moi? Nous étions à peine sortis de la tour carrée que j'entreprenais Rouletabille. D'abord, je le poussais dans l'encoignure du parapet qui joignait la tour carrée à la tour ronde, dans l'angle formé par l'avancée sur la cour de la tour carrée. Le reporter, qui s'était laissé conduire par moi docilement comme un enfant, dit à voix basse « Sinclair, j'ai juré à ma mère que je ne verrai rien, que je n'entendrai rien de ce qui se passerait cette nuit à la tour carrée. C'est le premier serment que je fais à ma mère, Sinclair, mais ma part de paradis pour elle. Il faut que je voie et que j'entende. » Nous étions là, non loin d'une fenêtre encore éclairée, ouvrant sur le salon du vieux Bob et surplombant la mer. Cette fenêtre n'était point fermée, et c'est ce qui nous avait permis, sans doute, d'entendre distinctement le coup de revolver et le cri de la mort, malgré l'épaisseur des murailles de la tour. De l'endroit où nous nous trouvions maintenant, nous ne pouvions rien voir par cette fenêtre, mais n'était-ce pas déjà quelque chose que de pouvoir entendre? L'orage avait fui, mais les flots n'étaient pas encore apaisés, et ils se brisaient sur les rocs de la presqu'île d'Hercule avec cette violence qui rendait toute approche de barque impossible. Ainsi pensais-je, dans le moment, à une barque, parce que, une seconde, je crus voir apparaître ou disparaître, dans l'ombre, une ombre de barque. Mais quoi, c'était là évidemment une illusion de mon esprit, qui voyait des ombres hostiles partout, de mon esprit certainement plus agité que les flots. Nous nous tenions là, immobiles, depuis 5 minutes, quand un soupir, oh, ce long, cet affreux soupir, un gémissement profond comme une expiration, comme un souffle d'agonie, une plainte sourde, lointaine comme la vie qui s'en va, proche comme la mort qui vient, nous arriva par cette fenêtre et passa par nos fronts en sueur. Et puis, plus rien. Non, on n'entendait plus rien que le mugissement intermittent de la mer. Et tout à coup, la lumière de la fenêtre s'éteignit. La tour carrée, toute noire, rentra dans la nuit. Mon ami et moi, nous étions saisis la main et nous nous commandions ainsi, par cette communication muette, l'immobilité et le silence. Quelqu'un mourait là, dans la tour. Quelqu'un qu'on nous cachait, mais pourquoi et qui? Quelqu'un qui n'était ni Madame Darzac, ni Monsieur Darzac, ni le père Bernier, ni la mère Bernier, ni à n'en point douter le vieux Bob. Quelqu'un qui ne pouvait pas être dans la tour. Penchés à tomber au-dessus du parapet, le cou tendu vers cette fenêtre qui avait laissé passer cette agonie, nous écoutions encore. Un quart d'heure s'écoula ainsi, un siècle. Rouletabille me montrait alors la fenêtre de sa chambre restée éclairée. Je compris, il fallait aller éteindre cette lumière et redescendre. Je pris 1000 précautions. 5 minutes plus tard, j'étais revenu auprès de Rouletabille. Il n'y avait plus maintenant d'autre lumière dans la cour du téméraire que la faible lueur au ras du sol dénonçant le travail tardif du vieux Bob dans la batterie basse de la tour ronde et le lumignon de la poterne du jardinier où veillait ma Tony. En somme, en considérant la position qu'ils occupaient, on pouvait très bien s'expliquer que ni le vieux Bob ni ma Tony n'eussent rien entendu de ce qui s'était passé dans la tour carrée, ni même, dans l'orage finissant, des clameurs de Rouletabille poussées au-dessus de leur tête. Les murs de la poterne étaient épais et le vieux Bob était enfoui dans un véritable souterrain. J'avais eu à peine le temps de me glisser auprès de Rouletabille, dans l'encoignure de la tour et du parapet, poste d'observation qu'il n'avait point quitté, que nous entendions distinctement la porte de la tour carrée qui tournait avec précaution sur ses gonds. Comme j'allais me pencher au-delà de l'encoignure et allonger mon buste sur la cour, Rouletabille me rejeta dans mon coin, ne permettant qu'à lui-même de dépasser de la tête le mur de la tour carrée. Mais, comme il était très courbé, je violai la consigne et je regardai par-dessus la tête de mon ami et voici ce que je vis. D'abord, le père Bernier, bien reconnaissable malgré l'obscurité, qui, sortant de la tour, se dirigeait sans faire aucun bruit du côté de la poterne du jardinier. Au milieu de la cour, il s'arrêta, regarda du côté de nos fenêtres, le front levé sur le château neuf, et puis il se retourna du côté de la tour et fit un signe que nous pouvions interpréter comme un signe de tranquillité. À qui s'adressait ce signe? Rouletabille se pencha encore, mais il se rejeta brusquement en arrière en me repoussant. Quand nous nous risquâmes à regarder à nouveau dans la cour, il n'y avait plus personne. Enfin, nous vîmes revenir le père Bernier, ou plutôt nous l'entendîmes d'abord, car il y eut entre lui et ma Tony une courte conversation dont l'écho assourdi nous arrivait. Et puis nous entendîmes quelque chose qui grimpait sous la voûte de la poterne du jardinier, et le père Bernier apparut avec, à côté de lui, la masse noire et tout doucement roulante d'une voiture. Nous distinguions bientôt que c'était la petite charrette anglaise traînée par Toby, le poney d'Arthur Rance. La cour du téméraire était de terre battue, et le petit équipage ne faisait pas plus de bruit sur cette terre que s'il avait glissé sur un tapis. Enfin, Toby était si sage et si tranquille qu'on eût dit qu'il avait reçu les instructions du père Bernier. Celui-ci, arrivé à côté du puits, releva encore la tête du côté de nos fenêtres, et puis, tenant toujours Toby par la bride, arriva sans encombre à la porte de la tour carrée. Enfin, laissant devant la porte le petit équipage, il entra dans la tour. Quelques instants s'écoulèrent qui nous parurent, comme on dit, des siècles, surtout à mon ami qui s'était mis à nouveau à trembler de tous ses membres, sans que j'en pusse deviner la raison subite. Et le père Bernier réapparut. Il retraversait la cour tout seul et retournait à la poterne. C'est alors que nous dûmes nous pencher davantage, et certainement les personnes qui étaient maintenant sur le seuil de la tour carrée auraient pu nous apercevoir si elles avaient regardé de notre côté, mais elles ne pensaient guère à nous. La nuit s'éclaircissait alors d'un beau rayon de lune qui fit une grande raie éclatante sur la mer et allongea sa clarté bleue dans la cour du téméraire. Les deux personnages qui étaient sortis de la tour et s'étaient approchés de la voiture parurent si surpris qu'ils eurent un mouvement de recul. Mais nous entendions très bien la dame en noir prononcer cette phrase à voix basse. « Allons, du courage, Robert, il le faut !» Plus tard, nous avons discuté avec Rouletabille pour savoir si elle avait dit « il le faut ou il en faut ». Mais nous ne tûmes point conclure. Et Robert Darzac dit d'une voix singulière « oh, ce n'est point ce qui me manque !» Il était courbé sur quelque chose qu'il traînait et qu'il souleva avec une peine infinie, et qu'il essaya de glisser sous la banquette de la petite charrette anglaise. Rouletabille avait retiré sa casquette et claquait littéralement des dents. Autant que nous pûmes la distinguer, la chose était un sac. Pour remuer ce sac, M. Darzac avait fait de gros efforts et nous entendîmes un soupir. Appuyé contre le mur de la tour, la dame en noir le regardait sans lui prêter aucune aide. Et soudain, dans le moment que M. Darzac avait réussi à pousser le sac dans la voiture, Mathilde prononça d'une voix sourdement épouvantée ces mots « Il remue encore, c'est la fin !» répondit M. Darzac, qui maintenant s'épongeait le front. Sur quoi il mit son pardessus et prit Toby par la bride. Il s'éloigna, faisant un signe à la dame en noir, mais celle-ci, toujours appuyée à la muraille, comme si on l'avait allongée là pour quelque supplice, ne lui répondit pas. M. Darzac nous parut plutôt calme. Il avait redressé la taille, il marchait d'un pas ferme, on pouvait dire d'un pas d'honnête homme conscient d'avoir accompli son devoir. Toujours avec de grandes précautions, il disparut avec sa voiture sous la poterne du jardinier et la dame en noir rentra dans la tour carrée. Je voulus alors sortir de notre coin, mais Rouletabille m'y maintint énergiquement. Il fit bien, car Bernier débouchait de la poterne et retraversait la cour, se dirigeant à nouveau vers la tour carrée. Quand il ne fut plus qu'à 2 mètres de la porte qui s'était refermée, Rouletabille sortit lentement de l'encoignure du parapet, se glissa entre la porte et Bernier effrayé, et mit les mains au poignet du concierge. « Venez avec moi, lui dit-il. » L'autre paraissait anéanti. J'étais sorti de ma cachette, moi aussi. Il nous regardait maintenant dans le rayon bleu de la lune. Ses yeux étaient inquiets et ses lèvres murmurèrent « c'est un grand malheur !» Chapitre 12. Le corps impossible. « Ce sera un grand malheur si vous ne dites point la vérité, » répliqua Rouletabille à voix basse. « Mais il n'y aura point de malheur du tout si vous ne vous cachez rien. Allons, venez !» Et il l'entraîna, lui tenant toujours le poignet, vers le château neuf, et je l'ai suivi. À partir de ce moment, je retrouvais tout mon Rouletabille. Maintenant qu'il était si heureusement débarrassé d'un problème sentimental qui l'avait intéressé si personnellement, maintenant qu'il avait retrouvé le parfum de la dame en noir, il reconquérait toutes les formes incroyables de son esprit pour la lutte entreprise contre le mystère. Et jusqu'au jour où tout fut conclu, jusqu'à la minute suprême, la plus dramatique que j'ai vécue de ma vie, même aux côtés de Rouletabille, où la vie et la mort eurent parlé et se furent expliquées par sa bouche, il ne va plus avoir un geste d'hésitation dans la marche à suivre. Il ne prononcera plus un mot qui ne contribue nécessairement à nous sauver de l'épouvantable situation faite à l'assiégée par l'attaque de la tour carrée dans la nuit du 12 au 13 avril. Bernier ne lui résista pas. D'autres voudront lui résister, qu'il brisera et qui crieront grâce. Bernier marche devant nous, le front bas, tel un accusé qui va rendre compte à ses juges. Et quand nous sommes arrivés dans la chambre de Rouletabille, nous le faisons asseoir en face de nous, j'ai allumé la lampe. Le jeune reporter ne dit pas un mot. Il regarde Bernier en bourrant sa pipe. Il essaie évidemment de lire sur ce visage toute l'honnêteté qui s'y peut trouver. Puis son sourcil froncé s'allonge, son œil s'éclaire. Ayant jeté vers le plafond quelques nuages de fumée, il dit « Voyons, Bernier, comment l'ont-ils tué ?» Bernier secoua sa rude tête de gars picard. « J'ai juré de rien dire. J'en sais rien, monsieur. Ma foi, je n'en sais rien. » Rouletabille. « Eh bien, racontez-moi ce que vous ne savez pas. Car si ne me racontez pas ce que vous ne savez pas, Bernier, je ne réponds plus de rien. Mais de quoi donc, monsieur, ne répondez-vous plus ? Mais de votre sécurité, Bernier. » Ma sécurité à moi, mais je n'ai rien fait. De notre sécurité à tous, de notre vie, répliqua Rouletabille en se levant et en faisant quelques pas dans la chambre, ce qui lui donna le temps de faire sans doute mentalement quelque opération algébrique nécessaire. Alors, reprit-il, il était dans la tour carrée. Oui, fit la tête de Bernier. Ou dans la chambre du vieux Bob ? « Non, » fit la tête de Bernier. « Caché chez vous, dans votre loge ?»« Non, » fit la tête de Bernier. « Ah, ça, mais où était-il donc ? Il n'était pourtant pas dans l'appartement de M. et Mme Darzac. »« Oui, » fit la tête de Bernier. « Misérable !» grinça Rouletabille, et il sauta à la gorge de Bernier. Je courus au secours du concierge et l'enlevai aux griffes de Rouletabille. Quand il put respirer, « Ah, ça, monsieur Rouletabille, pourquoi voulez-vous m'étrangler ? » dit-il. « Vous le demandez, Bernier, vous osez encore le demander, et vous avouez qu'il était dans l'appartement de monsieur et madame Darzac ? Et qui donc l'a introduit dans cet appartement, si ce n'est vous ? Vous qui seul avez la clé, que monsieur et madame Darzac ne sont pas là ?» Bernier se leva très pâle. « C'est vous, monsieur Rouletabille, qui m'accusez d'être le complice de Larsan ?»« Je vous défends de prononcer ce nom-là, » s'écria le reporter. « Vous savez bien que Larsan est mort, et depuis longtemps. »« Depuis longtemps, » reprit Bernier ironique. « C'est vrai, oui, j'ai eu tort de l'oublier. Quand on se dévoue à ses maîtres, quand on se bat pour ses maîtres, il faut ignorer même contre qui. Oh, je vous demande pardon. Écoutez-moi bien, Bernier. Je vous connais, je vous estime. Vous êtes un brave homme. Aussi, ce n'est pas votre bonne foi que j'incrimine, c'est votre négligence. Ma négligence ? Et Bernier, de pâle qu'il était, devint écarlate. Ma négligence, mais je n'ai point bougé de ma loge, de mon couloir. J'ai eu toujours la clé sur moi, et je vous jure que personne n'est entré dans cet appartement, personne d'autre, après que vous l'avez eu visité à 5 heures, que M. Robert et Mme Robert Barzac. Mais je ne compte point naturellement la visite que vous y avez faite, à 6 heures environ, vous et M. Sinclair. Ah, ça, reprit Rouletabille, vous ne me ferez point croire que cet individu... Nous avons oublié son nom, n'est-ce pas, Bernier ? Nous l'appellerons l'homme. Que l'homme a été tué chez M. et Mme Darzac, s'il n'y était pas. Non, si je puis vous affirmer qu'il y était. Oui, mais comment y était-il ? Voilà ce que je vous demande, Bernier. Et vous seul pouvez le dire, puisque vous seul aviez la clé en l'absence de M. Darzac, et que M. Darzac n'a point quitté sa chambre quand il avait la clé et qu'on ne pouvait se cacher dans sa chambre pendant qu'il était là. Voilà bien le mystère, monsieur, et qui intrigue M. Darzac plus que tout. Mais je n'ai pu lui répondre que ce que je vous réponds. Voilà bien le mystère. Mais quand nous avons quitté la chambre de M. Darzac, M. Sinclair et moi, avec M. Darzac à 6h15 environ, vous avez fermé immédiatement la porte ? Oui, monsieur. Et quand l'avez-vous rouverte ? Mais cette nuit, une seule fois, pour laisser entrer M. et Mme Darzac chez eux. M. Darzac venait d'arriver, Mme Darzac était depuis quelque temps dans le salon de M. Bob, d'où venait de partir M. Sinclair. Ils se sont retrouvés dans le couloir et je leur ai ouvert la porte de leur appartement. Voilà. Aussitôt qu'ils ont été entrés, j'ai entendu qu'on repoussait les verrous. Donc entre 6h15 et ce moment-là, vous n'avez pas ouvert la porte. Mais pas une seule fois. Et où étiez-vous pendant tout ce temps ? Devant la porte de ma loge, surveillant la porte de l'appartement. Et c'est là que ma femme et moi nous avons dîné à 6h30 sur une petite table dans le couloir, parce que la porte de la tour étant ouverte, il faisait plus clair et que c'était plus gai. Après dîner, je suis resté à fumer des cigarettes et à bavarder avec ma femme sur le seuil de ma loge. Nous étions placés de façon que même si nous l'avions voulu, nous n'aurions pas pu quitter des yeux la porte de l'appartement de M. Darzac. Mais c'est un mystère. Un mystère plus incroyable que le mystère de la chambre jaune. Car là-bas, on ne savait pas ce qui s'était passé avant. Mais là, monsieur, on sait ce qui s'est passé avant, puisque vous avez vous-même visité l'appartement à 5 heures et qu'il n'y avait personne dedans. On sait ce qui s'est passé pendant, puisque j'avais la clé dans ma poche, ou que monsieur Darzac était dans sa chambre et qu'il aurait bien aperçu tout de même l'homme qui ouvrait sa porte et qui venait pour l'assassiner. Et puis encore que j'étais, moi, dans le couloir, devant cette porte, et que j'aurais bien vu passer l'homme. Et on sait ce qui s'est passé après. Après, il n'y a pas eu d'après. Après, ça a été la mort de l'homme. Ce qui prouvait bien que l'homme était là. Oh, ben c'est un mystère. Et depuis 5 heures jusqu'au moment du drame, vous affirmez bien que vous n'avez pas quitté le couloir. Ma foi, oui. Vous en êtes sûr ? Insista Rouletabille. Pardon, monsieur, oui, à un moment, une minute où vous m'avez appelé. C'est bien, Bernier, je voulais savoir si vous vous rappeliez cette minute-là. Mais ça n'a pas duré plus d'une minute ou deux, et monsieur Darzac était dans sa chambre, il ne l'a pas quitté. Ah, c'est un mystère. Comment savez-vous qu'il ne l'a pas quitté pendant ces 2 minutes-là ? Dame, s'il avait quitté ma femme qui était dans la loge, je l'aurais bien vu. Et puis ça expliquerait tout, et il serait pas si intrigué, ni madame non plus. Ah, il a fallu que je lui répète que personne d'autre n'était entré que lui à 5 heures et vous à 6, et que personne n'était pu entrer dans la chambre avant sa rentrée à lui la nuit avec madame Darzac. Il était comme fou, il voulait pas me croire. Je lui ai juré sur le cadavre qui était là. Et où était-il, le cadavre ? Dans sa chambre. C'était bien un cadavre. Oh, il respirait encore, je l'entendais. Alors, ce n'était pas un cadavre, père Bernier. Oh, monsieur Rouletabille, c'était tout comme. Pensez donc, il avait un coup de revolver dans le cœur. Enfin, le père Bernier allait nous parler du cadavre. L'avait-il vu ? Comment était-il ? On eût dit que ceci apparaissait comme secondaire aux yeux de Rouletabille. Le reporter ne semblait préoccupé que du problème de savoir comment le cadavre se trouvait là. Comment cet homme était-il venu se faire tuer ? Seulement, de ce côté, le père Bernier savait peu de choses. L'affaire avait été rapide comme un coup de feu, lui semblait-il, et il était derrière la porte. Il nous raconta qu'il s'en allait tout doucement dans sa loge et qu'il se disposait à se mettre au lit, quand la mère Bernier et lui entendirent un si grand bruit venant de l'appartement de Darzac qu'ils en restèrent saisis. C'était des meubles qu'on bousculait, des coups dans le mur. « Qu'est-ce qui se passe ?» fit la bonne femme, et aussitôt on entendit la voix de madame Darzac qui appelait « Au secours !» Ce cri-là, nous l'avions pas entendu, nous autres, dans la chambre du château neuf. Et le père Bernier, pendant que sa femme s'affalait, épouvantée, courut à la porte de la chambre de monsieur Darzac et la secoua en vain, criant qu'on lui ouvrit. La lutte continuait de l'autre côté, sur le plancher. Il entendit le halètement de deux hommes et il reconnut la voix de Larsan à un moment où ces mots furent prononcés. « Ce coup-ci, j'aurai ta peau !» Puis il entendit M. Darzac qui appelait sa femme à son secours d'une voix étouffée, épuisée. « Mathilde, Mathilde !» Évidemment, il devait avoir le dessous dans un corps à corps avec Larsan quand tout à coup, le coup de feu le sauva. Ce coup de revolver effraya moins le père Bernier que le cri qui l'accompagna. On eût pu penser que madame Darzac, qui avait poussé le cri, avait été mortellement frappée. Bernier ne s'expliquait point cela, l'attitude de madame Darzac. Pourquoi n'ouvrait-elle point au secours qu'il lui apportait ? Pourquoi ne tirait-elle pas les verrous ? Enfin, presque aussitôt après le coup de revolver, la porte sur laquelle le père Bernier n'avait cessé de frapper s'était ouverte. La chambre était plongée dans l'obscurité, ce qui n'étonna point le père Bernier, car la lumière de la bougie qu'il avait aperçue sous la porte pendant la lutte s'était brusquement éteinte et il avait entendu en même temps le bougeoir qui roulait par terre. C'était madame Darzac qui lui avait ouvert, pendant que l'ombre de monsieur Darzac était penchée sur un râle, sur quelqu'un qui se mourait. Bernier avait appelé sa femme pour qu'elle apportât de la lumière, mais madame Darzac s'était écriée « Non, 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 pas de lumière, pas de lumière, et surtout qu'il ne sache rien !» Et aussitôt, elle avait couru à la porte de la tour en criant « il vient, je l'entends. Ouvrez la porte, père Bernier, je vais le recevoir. » Et le père Bernier, lui, avait ouvert la porte pendant qu'elle répétait en gémissant « Cachez-vous, allez-vous-en, qu'il ne sache rien !» Le père Bernier continuait « Alors vous êtes arrivé comme une trompe, monsieur Rouletabille, et elle vous a entraîné dans le salon du vieux Bob, vous n'avez rien vu. Moi, j'étais retenu auprès de monsieur Darzac. L'homme sur le plancher avait fini de râler. Monsieur Darzac, toujours penché sur lui, m'avait dit « Un sac, Bernier, un sac et une pierre, et on le fiche à la mer, et on n'en entend plus parler. » Alors, continua Bernier, j'ai pensé à mon sac de pommes de terre. Ma femme avait remis les pommes de terre dans le sac, je l'ai vidé à mon tour et je l'ai apporté. Oh, nous faisions le moins de bruit possible. Pendant ce temps-là, madame vous racontait des histoires, sans doute, dans le salon du vieux Bob. Et nous entendions Monsieur Sinclair qui interrogeait ma femme dans la loge. Nous, en douceur, nous avons glissé le cadavre que M. Darzac avait proprement ficelé dans le sac. J'avais dit à M. Darzac, « Un conseil, ne le jetez pas à l'eau, elle n'est pas assez profonde pour le cacher. Il y a des jours où la mer est si claire qu'on en voit le fond. » « Alors qu'est-ce que je vais en faire ?» a demandé M. Darzac à voix basse. Je lui ai répondu, « Ma foi, je n'en sais rien, monsieur. Tout ce que je pouvais faire pour vous et pour madame et pour l'humanité, contre un bandit comme Frédéric Larsan, je l'ai fait. Mais ne m'en demandez pas davantage et que Dieu vous protège. » Alors je suis sorti de la chambre et je vous ai retrouvé dans la loge, monsieur Sinclair. Et puis vous avez rejoint monsieur Rouletabille sur la prière de monsieur Darzac qui était sorti de sa chambre. Quant à ma femme, elle s'est presque évanouie quand elle a vu tout à coup que monsieur Darzac était plein de sang, et moi aussi. Tenez, messieurs, mes mains sont rouges. Ah, pourvu que tout ça ne nous porte pas malheur. Enfin, nous avons fait notre devoir. Mais c'était un fier bandit. Et voulez-vous que je vous dise? Eh bien, on ne pourra jamais cacher une histoire pareille. Et on ferait mieux de la raconter tout de suite à la justice. J'ai promis de me taire, et je me tairai tant que je pourrai, mais je suis bien content tout de même de me décharger d'un pareil poids devant vous, qui êtes des amis à madame et à monsieur, et qui pouvait peut-être leur faire entendre raison. Pourquoi qu'ils se cachent? C'est-il pas un honneur de tuer un Larsan? Pardon, oh, pardon d'avoir encore prononcé ce nom-là. Je sais bien, il n'est pas propre. C'est-il pas un honneur d'en avoir délivré la terre en s'en délivrant soi-même? Ah, tenez, une fortune. Madame Darzac m'a promis une fortune si je me taisais. Mais qu'est-ce que j'en ferais? C'est-il pas la meilleure fortune de la servir, cette pauvre dame-là, qui a eu tant de malheur? Tenez, rien du tout, rien du tout. Là. Mais qu'elle parle! Qu'est-ce qu'elle craint? Je lui ai demandé quand vous êtes allé soi-disant vous coucher et que nous nous sommes retrouvés tout seuls dans la tour carrée, avec notre cadavre. Je lui ai dit, « Mais criez donc que vous l'avez tué, et tout le monde fera bravo !» Elle m'a répondu, « Il y a déjà eu trop de scandales, Bernier. Tant que cela dépendra de moi, et si c'est possible, on cachera cette nouvelle affaire. Mon père en mourrait. » Je lui ai rien répondu, mais j'en avais bien envie. J'avais sur la langue de lui dire, ben, « Si on apprend l'affaire plus tard, on croira à des tas de choses injustes, et monsieur votre père en mourra bien davantage. » Mais c'était son idée, elle veut qu'on se taise. Eh bien, on se taira. Suffit. Bernier se dirigea vers la porte et nous montrant ses mains, « Il faut que j'aille me débarbouiller de tout le sang de ce cochon-là. » Rouletabille l'arrêta. « Et qu'est-ce que disait M. Darzac pendant ce temps-là? Quel était son avis ?» Oh, il répétait, « Tout ce que fera Madame Darzac sera bien fait. Il faut lui obéir, Bernier. » Son veston était arraché, il avait une légère blessure à la gorge, mais il ne s'en occupait pas. Et au fond, il n'y avait qu'une chose qui l'intéressait. C'était la façon dont le misérable avait pu s'introduire chez lui. Ça, je vous le répète, il n'en revenait pas, et j'ai dû lui donner encore des explications. Ses premières paroles à ce sujet avaient été pour dire « Mais enfin, quand je suis entré tantôt dans ma chambre, il n'y avait personne, et j'ai aussitôt fermé ma porte au verrou. » Et où cela se passait-il? dans ma loge, devant ma femme, qui en était comme abrutie, la pauvre chère femme. Et le cadavre, où était-il ? Ben, il était resté dans la chambre de M. Darzac. Et qu'est-ce qu'ils avaient décidé pour s'en débarrasser ? Non, c'est trop rien, mais pour sûr, la résolution a été prise, comme Madame Darzac me dit. Bernier, je vous demanderai un dernier service. Vous allez aller chercher la charrette anglaise à l'écurie et vous y attellerez Toby. Ne réveillez pas Walter si c'est possible. Si vous le réveillez, s'il vous demande des explications, vous lui direz ainsi que Matt Tony, qui est de garde sous la poterne, c'est pour M. Darzac qui doit se trouver ce matin à 4 heures à Castellar pour la tournée des Alpes. Et Madame Darzac m'a dit aussi, si vous rencontrez M. Sinclair, ne lui dites rien, mais amenez-le-moi. Et si vous rencontrez M. Rouletabille, ne dites rien et ne faites rien. Oh, monsieur, Madame n'a voulu que je sorte que lorsque la fenêtre de votre chambre a été fermée et que votre lumière a été éteinte. Cependant, nous n'étions point rassurés avec le cadavre que nous croyions mort et qui se reprit une fois encore à soupirer. Et quel soupir ! Ben, le reste, monsieur, vous l'avez vu, et vous en savez maintenant autant que moi. Que Dieu nous garde. Quand Bernier eut ainsi raconté l'impossible drame, Rouletabille le remercia avec sincérité de son grand dévouement à ses maîtres. Lui recommanda la plus grande discrétion, le pria de l'excuser de sa brutalité et lui ordonna de ne rien dire de l'interrogatoire qu'il venait de subir à Madame Darzac. Bernier, avant de s'en aller, voulut lui serrer la main, mais Rouletabille retira la sienne. « Non, Bernier, vous êtes encore tout plein de sang. » Bernier nous quitta pour aller rejoindre la dame en noir. « Eh bien, fis-je, quand nous fûmes seuls, Larsan est mort. »« Oui, me répliqua-t-il, je le crains. »« Vous le craignez ? Mais pourquoi le craignez-vous ? » ?»« Parce que, fit-il d'une voix blanche que je ne lui connaissais pas encore, parce que la mort de Larsan, lequel sort mort sans être entré ni mort ni vivant, m'épouvante plus que sa vie. »